James, Un portrait de femme, chapitre 44. La comtesse Gemini était souvent accablée d'un ennui extrême, d'un ennui mortel, comme elle disait. Elle n'était pas morte cependant, et avait lutté de son mieux contre l'infortune d'avoir épousé un Florentin obstiné qui voulait à toute force demeurer dans sa ville natale, où il jouissait de tout ce qui pouvait s'attacher de considération à un gentilhomme dont le talent pour perdre aux cartes n'avait pas le mérite d'aller de pair avec une disposition aimable. Le comte Gemini n'était pas aimé de ceux-mêmes qui gagnaient son argent, et il portait un nom qui, possédant une valeur appréciable à Florence, n'avait, pas plus que les monnaies particulières des anciens États italiens, cours dans le reste de la péninsule. À Rome, il n'était qu'un niais de Florentin, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il n'eût guère envie de se montrer souvent dans une ville où sa balourdise, pour s'alléger, demandait des éclaircissements infinis. La comtesse gardait les yeux constamment fixés sur Rome, et c'était le perpétuel chagrin de sa vie de n'y pas jouir d'un pied-à-terre. Elle n'eût pas avoué sans honte le nombre restreint de séjours qu'elle avait été autorisée à y faire, et trouvait une consolation médiocre dans la pensée que d'autres membres de la noblesse florentine n'y étaient jamais allés. Elle s'y rendait aussi souvent que possible, c'est tout ce qu'elle pouvait dire. Tout du moins, ce qu'elle prétendait pouvoir dire. Au vrai, elle en avait beaucoup plus long à compter sur le sujet, et exposait souvent les raisons qui lui faisaient exécrer Florence et souhaiter de finir ses jours à l'ombre de Saint-Pierre. Ce sont des motifs qui ne nous touchent pas de près, et qui se résumaient en général dans la déclaration que Rome était en somme la ville éternelle, et que Florence n'était qu'une jolie petite ville comme une autre. La comtesse prétendait évidemment attacher à ses distractions l'idée d'éternité. Elle affirmait que la société était infiniment plus intéressante à Rome, où l'on rencontrait tout l'hiver les célébrités dans les soirées. À Florence, il n'y avait pas de célébrité, aucune du moins qui fît parler d'elle. Depuis le mariage de son frère, son indignation s'était fort accentuée. Elle était certaine que sa belle-sœur menait une vie plus brillante qu'elle. Sans posséder l'intellectualité d'Isabelle, elle en était assez pourvue pour faire honneur à Rome. Pas aux ruines ni aux catacombes, pas même peut-être aux monuments et aux musées, aux cérémonies ecclésiastiques et aux décors, mais à coup sûr à tout le reste. On lui avait beaucoup parlé de sa belle-sœur, et elle savait qu'Isabelle prenait du bon temps. Elle s'en était d'ailleurs aperçue elle-même lors de l'unique circonstance où elle eut goûté l'hospitalité du Palazzo Rocanera. Elle y avait passé une semaine, durant le premier hiver de la vie conjugale de son frère, mais n'avait pas été invitée à renouveler ce séjour. Osmonde ne voulait pas d'elle, elle le savait parfaitement, mais cette considération ne l'aurait pas empêchée de retourner à Rome car, après tout, elle ne se souciait nullement de l'opinion d'Osmonde. C'était son mari qui s'opposait au voyage, et la question d'argent demeurait toujours irritante entre eux. Isabelle s'était montrée très prévenante. La comtesse, qui avait eu du goût pour sa belle-sœur dès leur première rencontre, ne s'était pas laissée aveugler par la jalousie à l'endroit de ses mérites. Elle s'était aperçue qu'elle s'entendait toujours mieux avec des femmes intelligentes qu'avec des sottes comme elle-même. Les sottes ne discernaient jamais ce qu'elles pouvaient avoir de raison, tandis que les femmes intelligentes comprenaient toujours sa sottise. Il lui semblait que malgré tout ce qui séparait leur extérieur et leur manière d'être en général, Isabelle et elle possédaient quelque part une parcelle de terrain en commun et qu'elle finirait un jour par y poser les pieds. Ce n'était pas un domaine bien important, mais il était bien assis et elles en apprécieraient la solidité une fois qu'elles y auraient abordé. Au surplus, elle éprouvait toujours près de Mrs. Osmonde une agréable surprise. Elle prévoyait sans cesse qu'Isabelle allait la toiser de très haut et voyait non moins constamment cette opération différée. Elle en attendait toujours le début, comme on attend celui d'un feu d'artifice, du carême ou de la saison d'opéra. Non qu'elle y attachât grande importance, mais parce qu'elle se demandait quelle était la cause du suspens. Sa belle-sœur ne la regardait jamais que de plein pied, et exprimait pour la pauvre comtesse aussi peu de mépris que d'admiration. En réalité, Isabelle aurait aussi peu songé à la mépriser qu'à exprimer un jugement moral sur une sauterelle. Sa belle-sœur ne lui était d'ailleurs pas indifférente, elle lui faisait plutôt un peu peur. Elle songeait à elle avec étonnement et la jugeait fort singulière. La comtesse lui paraissait dépourvue d'âme. C'était un coquillage brillant et rare, à la surface polie et au bord remarquablement rose, où quelque chose tintait quand on l'agitait. Ce tintement devait représenter le principe spirituel de la comtesse. C'était un petit grelot qui bougeait dans son être intime. Elle était trop étrange pour le dédain, trop anormale pour les comparaisons. Isabelle l'aurait volontiers réinvitée, Il n'était pas question d'inviter le comte, si Osmond ne s'était avisé, après son mariage, de déclarer franchement qu'Amy était une folle de la pire espèce, une folle dont la folie avait l'irrépressibilité du génie. Une autre fois, il l'accusa de n'avoir pas de cœur, puis ajouta aussitôt qu'elle l'avait donné tout entier par petits morceaux, comme un gâteau de mariage glacé. Le fait de n'avoir pas été prié était évidemment un obstacle supplémentaire au voyage de la comtesse à Rome. Mais à l'époque dont traite maintenant ce récit, elle venait de recevoir une invitation à passer quelques semaines au palais Rocanera. La proposition émanait d'Osmond lui-même, qui avertissait sa sœur de s'attendre à une vie très calme. Je ne saurais dire si elle sut attribuer à cette phrase toute la signification qu'il avait pu y mettre, mais elle accepta l'invitation telle qu'elle. Sa curiosité entrait d'ailleurs en jeu, car lors de sa première visite, elle avait eu l'impression que son frère trouvait à qui parler. Avant le mariage, elle s'était émue de pitié pour Isabelle, d'une telle pitié qu'elle avait conçu sérieusement le projet, à supposer qu'un projet de la comtesse pût jamais être sérieux, de la mettre sur ses gardes. Puis elle avait laissé faire les choses, et s'était assez vite sentie rassurée. Osmond gardait sa hauteur habituelle, mais sa femme ne lui fournissait pas une victime facile. Sans avoir une appréciation très sûre des mesures, la comtesse jugeait qu'Isabelle, si elle avait voulu se redresser, eût dépassé son mari en hauteur morale. Ce qu'elle souhaitait découvrir maintenant, c'était si Isabelle s'était redressée. Elle eût éprouvé un plaisir immense à voir Osmond dominer. Quelques jours avant son départ pour Rome, un domestique lui apporta une carte de visite avec cette simple suscription « Henriette Stackpole ». La comtesse se pressa les mains sur le front. Elle ne se souvenait pas d'avoir connu une Henriette de ce nom. Le domestique fit alors observer que la dame l'avait chargée de dire que si la comtesse ne reconnaissait pas son nom, elle la reconnaîtrait bien, elle, en la voyant. Et en effet, en se présentant devant la visiteuse, la comtesse se souvint d'avoir vu un jour une femme de lettres chez Mrs. Touchett, la seule femme de lettres qu'elle eût jamais rencontrée, la seule moderne du moins puisqu'elle était fille d'une poétesse défunte. Elle reconnut du premier coup Miss Stackpole, et cela d'autant plus aisément que Miss Stackpole semblait être restée parfaitement identique à elle-même. La comtesse, qui avait beaucoup de bonté d'âme, s'estima très honorée de recevoir la visite d'une personne de cette distinction. Elle se demanda si Miss Stackpole venait en souvenir de sa mère, et si elle avait entendu parler de la Corinne américaine. Sa mère ne ressemblait en rien à la Miss Isabelle, dont elle s'aperçut, au premier coup d'œil, qu'elle était beaucoup plus moderne. Elle fut heureusement surprise par l'amélioration qui se produisait, surtout au pays lointain, dans le caractère professionnel des femmes de lettres. Elle avait vu sa mère éternellement affublée d'une écharpe romaine jetée sur des épaules qui émergeaient timidement d'une gaine serrée de velours noir, oh, les vieilles robes, et d'une couronne de laurier dorée posée sur une multitude de boucles luisantes. Elle parlait d'une voix douce et incertaine, avec l'accent de ses ancêtres créoles, comme si elle eût toujours été au confessionnal. Elle soupirait beaucoup et n'avait nul esprit d'entreprise. Pour Henriette, au contraire, ainsi que le constata la comtesse, elle était hermétiquement boutonnée et étroitement lacée. Il y avait quelque chose de vif et de catégorique dans son extérieur, et son attitude dénotait une sorte de parti pris de familiarité. On ne l'imaginait pas plus occupée à pousser des soupirs sans objet qu'on ne s'aviserait de mettre à la poste une lettre sans adresse. La comtesse comprit sans peine que la correspondante de l'intervieweur était beaucoup plus dans le mouvement que la Corinne américaine. Pour expliquer sa venue chez la comtesse, Henriette lui avoua qu'elle était la seule personne de sa connaissance à Florence et que lorsqu'elle visitait une ville étrangère, elle aimait y voir autre chose que des voyageurs de passage. Elle connaissait Mrs. Touchett, mais Mrs. Touchett était en Amérique, et même si elle eût été à Florence, Henriette ne se fût pas dérangée pour elle, car Mrs. Touchett ne représentait pas précisément une de ses admirations. « Voulez-vous dire par là que j'en sois une ?» demanda gracieusement la comtesse. « Oh, je vous préfère à elle, » déclara Miss Stackpole. « Je crois me souvenir qu'à notre première entrevue, je vous ai trouvée très intéressante. Je ne sais pas si c'était un hasard ou si c'était votre manière d'être habituelle. » En tout cas, j'ai été très frappée de ce que vous avez dit. J'en ai fait mention plus tard dans un article. « Mon Dieu !» s'écria la comtesse, en ouvrant de grands yeux effarés. « Je ne me doutais pas d'avoir jamais rien dit de remarquable. J'aurais voulu m'en rendre compte sur le moment. » « Cela touchait à la situation de la femme dans cette ville, » expliqua Miss Stackpole. « Vous l'avez mise en pleine lumière. » « La situation de la femme est très pénible. Est-ce cela que vous voulez dire ?» Vous avez écrit sur le sujet, et vous avez publié votre article. Ah, vous me le ferez lire, supplia la comtesse. Je vous ferai envoyer le numéro si cela vous fait plaisir, promit Henriette. Je n'ai pas cité votre nom. J'ai seulement dit une dame de haute situation. Et j'ai donné votre opinion. La comtesse se rejeta vivement en arrière et leva ses mains jointes. Savez-vous que je regrette un peu que vous n'ayez pas cité mon nom? J'aurais été contente de le voir dans un journal. J'oublie quelles opinions j'ai pu vous exprimer, j'en ai tant. Je ne m'en cache nullement. Je ne suis pas du tout comme mon frère. Je suppose que vous connaissez mon frère. Il tient pour une espèce de déshonneur d'avoir son nom dans les journaux. Si vous le citiez, il ne vous le pardonnerait jamais. Il n'y a pas de danger. Je ne ferai pas allusion à lui, déclara Miss Stackpole avec une douce fermeté. D'ailleurs, j'avais une autre raison de venir vous voir. Vous savez que Mr. Osmond a épousé ma plus chère amie. Ah, c'est vrai, vous étiez l'amie d'Isabelle. Je cherchais à me rappeler ce que je savais sur votre compte. Je veux bien qu'on me reconnaisse à pareil titre, déclara Henriette. Ce n'est pourtant pas ce qui fait plaisir à votre frère. Il a voulu rompre mes relations avec Isabelle. Ne le laissez pas faire, conseilla la comtesse. Voilà précisément ce dont je voulais vous parler. Je vais à Rome. Moi aussi, s'écria la comtesse. Nous irons ensemble. Très volontiers. Et dans mes récits de voyage, je dirai que vous m'avez accompagnée. La comtesse bondit de son siège et vint s'asseoir sur le sofa, à côté de Miss Stackpole. Ah, il faudra m'envoyer le journal. Mon mari ne sera pas content, mais il sera inutile de le lui montrer. D'ailleurs, il ne sait pas lire. Les grands yeux d'Henriette se firent immenses. Il ne sait pas lire? Puis-je dire cela dans ma lettre? Dans votre lettre. À l'intervieweur, c'est mon journal. Ah, oui, si cela vous fait plaisir, avec mon nom. Vous allez demeurer chez Isabelle? Henriette releva la tête et regarda un moment son hôtesse en silence. Elle ne m'a pas invitée, je lui ai fait part de ma venue prochaine, et elle m'a répondu qu'elle allait me retenir une chambre dans une pension. Elle ne m'a pas donné de raison. La comtesse écoutait avec un intérêt extrême. La raison, c'est Osmond, fit-elle gravement. Isabelle devrait prendre garde, dit Miss Stackpole. Je crains qu'elle n'ait beaucoup changé. Je l'avais prévenue. Je suis fâchée de ce que vous me dites. J'espérais qu'elle saurait agir à sa convenance. Pourquoi mon frère ne vous aime-t-il pas? Demanda naïvement la comtesse. Je n'en sais rien et n'en ai cure. Il est parfaitement libre de ne pas m'aimer. Je ne demande pas que tout le monde m'aime. Je m'estimerais moins si j'étais au goût de certaines gens. Un journaliste ne peut espérer faire un peu de bien qu'au prix de beaucoup de haine. C'est ce qui lui montre que ses articles portent. Et il en va exactement de même pour une femme. Mais je ne m'attendais pas à cela de la part d'Isabelle. Vous ne croyez pas qu'elle vous déteste, sans qu'il la comtesse? Je n'en sais rien, je veux tirer la chose au clair. C'est la raison de mon voyage à Rome. Seigneur, quelle entreprise délicate, s'écria la comtesse. Elle ne m'écrit plus comme avant. Il n'est pas difficile d'apprécier la différence, poursuivit Miss Stackpole. Si vous savez quelque chose, j'aimerais en être informée tout de suite pour tirer à l'avance ma ligne de conduite. La comtesse fit la moue et haussa lentement les épaules. Je sais bien peu de choses, je ne vois guère Osmond et n'entends pas parler de lui. Il n'a pas plus de tendresse pour moi qu'il ne semble en avoir pour vous. Et pourtant vous n'êtes pas correspondante de journaux, fit Henriette d'un ton pensif. Oh, il a pas mal de raisons. Malgré tout, on m'a invitée, je dois demeurer au palais. Et la comtesse sourit sans retenue, car tout à sa joie du moment, elle ne se préoccupait guère du désappointement de Miss Stackpole. Celle-ci resta placide devant cette exubérance. « Moi, je ne serais pas descendue chez Isabelle si elle m'en avait prié, ou du moins je le crois, et je suis bien contente de n'avoir pas eu à prendre la décision. C'eût été pour moi une question très épineuse. Je n'aurais pas voulu m'éloigner d'elle, et je ne me serais pas sentie heureuse sous son toit. Je serais très bien dans une pension. D'ailleurs, ce n'est pas tout. » « Rome est très chic en ce moment, dit la comtesse. On y rencontre un tas de gens brillants. Avez-vous jamais entendu parler de Lord Warburton ? Si j'ai entendu parler de lui, je le connais très bien. Vous le considérez comme brillant ? Demanda Henriette. « Je ne le connais pas, mais on m'a dit qu'il est extrêmement grand seigneur. Il fait la cour à Isabelle. »« Il lui fait la cour ? C'est ce qu'on m'a dit, sans que j'en sache plus long, fit la comtesse d'un ton léger. Il n'y a rien à craindre avec Isabelle. » Henriette fut regarder fixement la comtesse et se taisait, puis elle demanda tout à coup. « Quand irez-vous à Rome ?»« Pas avant une semaine, j'en ai peur. »« Moi je partirai demain. Je crois que je ferai mieux de ne pas trop attendre. »« Mon Dieu, quel regret! Je fais faire des robes. On dit qu'Isabelle reçoit beaucoup. Du moins, je vous verrai là-bas. J'irai vous rendre visite à votre pension. » Henriette restait immobile, plongée dans ses pensées, et la comtesse s'écria soudain. « Ah, si vous ne venez pas avec moi, vous ne pourrez pas décrire notre voyage !» Miss Stackpole ne parut pas s'émouvoir de cette considération. Elle avait d'autres soucis, et leur donna libre cours en déclarant. « Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous avez dit de Lord Warburton. » Qu'y a-t-il à comprendre ? J'ai dit que c'était un galant homme, et voilà tout. Considérez-vous donc que ce soit se montrer galant que de faire la cour à une femme mariée ? Demanda Henriette avec une fermeté nouvelle. La comtesse ouvrit de grands yeux, puis avec un petit rire forcé. Ah, il est certain que tous les hommes galants le font. Mariez-vous et vous le verrez. Cette seule pensée suffirait à me détourner du mariage, protesta Henriette. Je voudrais mon mari à moi et pas celui d'une autre. Croyez-vous qu'Isabelle soit coupable ? Reprit-elle avec une légère hésitation devant le qualificatif nécessaire. Coupable ? Oh mon Dieu, non, pas encore, je l'espère. Je disais seulement qu'Osmonde est bien insupportable et que Lord Warburton, à ce que l'on raconte, vient souvent dans la maison. Je crains de vous scandaliser. Non, je suis seulement inquiète, précisa Miss Stackpole. Voilà qui n'est pas flatteur pour Isabelle. Il faut avoir plus de confiance en elle, je vous l'affirme, ajouta vivement la comtesse. Si cela peut vous rassurer, je m'engage à attirer Lord Warburton. Miss Stackpole ne répondit d'abord que par un regard, plus que jamais solennel, puis après un moment. « Vous ne me comprenez pas, reprit-elle, je ne me fais pas l'idée que vous supposez. Je n'ai pas peur pour Isabelle, dans ce sens-là. Je crains seulement qu'elle ne soit malheureuse, et c'est cela dont je veux m'assurer. » La comtesse tourna plusieurs fois la tête avec une expression d'impatience sarcastique. « C'est fort possible, mais pour ma part, ce que je voudrais savoir, c'est si Osmonde l'est aussi. » Miss Stackpole commençait à l'ennuyer un peu. « Si elle a vraiment changé, c'est cela qui doit en être cause, reprit Henriette. « Vous la verrez, elle vous le dira. » « Oh, elle pourrait fort bien ne m'en rien dire, justement, c'est ce dont j'ai peur. » « Si Osmonde ne s'amuse pas plus qu'autrefois, je me flatte de le découvrir sans peine, » déclara la comtesse. « Voilà qui m'est bien égal, » riposta Henriette. « Moi, cela ne m'est pas du tout égal. Si Isabelle est malheureuse, je le déplore, sans plus. Je pourrais bien lui dire quelque chose qui aggraverait son chagrin, mais je ne saurais trouver de quoi la consoler. Pourquoi est-elle allée l'épouser ? Si elle m'avait écouté, elle l'aurait envoyé paître. » Je lui pardonnerais son erreur si je savais qu'elle lui ait rendu la vie difficile. Si elle s'est simplement laissée étouffer, je crois que je ne la plaindrais même pas. Cela ne me paraît guère probable, d'ailleurs. J'espère découvrir que si elle est malheureuse, elle a du moins su le rendre malheureux aussi. Henriette se leva. Elle s'effarait un peu d'aussi redoutables espoirs. Elle croyait sincèrement n'avoir pas le moindre désir de voir malheureux un homme qui ne pouvait donner aucun essor à son imagination. Elle était, au demeurant, un peu déçue par la comtesse, dont l'esprit se mouvait dans un cercle plus restreint qu'elle ne l'avait imaginé, malgré une tendance assez marquée à l'indélicatesse. « Il vaudrait mieux qu'il s'aime, » proféra-t-elle sur un ton de sagesse. « C'est impossible, il ne peut aimer personne. » C'est ce que j'avais pressenti, et votre certitude ne fait qu'aggraver mes appréhensions concernant Isabelle. Je partirai décidément demain. « Isabelle ne manque certainement pas de cavalier servant, » fit la comtesse avec un sourire entendu. Je vous affirme que je ne la plains pas. Peut-être ne pourrais-je lui être d'aucun secours, reprit Miss Stackpole, comme pour se défendre à l'avance de toute illusion. Vous l'aurez tenté, en tout cas, et c'est déjà quelque chose. J'ai l'idée que c'est ce qui vous a ramené d'Amérique, ajouta soudain la comtesse. Oui, je voulais veiller sur elle, acquiesça Henriette, avec sérénité. Son hôtesse souriait de ses petits yeux brillants et de son nez fureteur. Une rougeur était montée à ses joues. « Ah, voilà un joli geste, c'est bien gentil, c'est bien ce qu'on appelle de l'amitié. »« Je ne sais pas ce qu'on en dit, j'ai jugé que je ferais bien de venir. »« Elle est très à l'aise, très heureuse, » reprit la comtesse. « Elle a d'autres gens d'ailleurs pour l'entourer. » Puis éclatant tout à coup, « Elle est plus heureuse que moi. Je suis bien plus à plaindre qu'elle. J'ai un très mauvais mari, bien pire qu'Osmonde, et je n'ai pas d'amis. Je croyais en avoir et ils m'ont tourné le dos. Personne, homme ou femme, ne ferait pour moi ce que vous faites pour elle. » Henriette se sentit touchée. Il y avait du naturel dans cette explosion amère. Elle regarda un moment son hôtesse, puis « Écoutez, comtesse, je vais vous faire plaisir. Je vous attendrai pour partir. »« Peu importe, » répondit la comtesse avec un changement de ton soudain, « si vous parlez de moi dans le journal. » Force fut à Henriette, avant de la quitter, de lui faire comprendre l'impossibilité de donner une description imaginaire de son voyage à Rome. Miss Stackpole était une informatrice scrupuleusement sincère. Au sortir du logis de la comtesse, elle se dirigea vers le Lungarno, le quai ensoleillé bordant la rivière jaune, où s'alignent les auberges à façades colorées, familières aux touristes. Elle avait déjà appris à se diriger dans les rues de Florence, ce qu'elle faisait toujours sans peine, et c'est d'un pas très décidé qu'elle sortit du petit jardin qui commande l'entrée du pont de la Sainte Trinité. « Tirant à gauche vers le Ponte Vecchio, elle s'arrêta devant l'un des hôtels qui domine cet adorable monument. Elle sortit un petit carnet de sa poche, y prit une carte et un crayon, et après avoir un moment médité, écrivit quelques mots. Nous prévalant du privilège de regarder par-dessus son épaule, nous lirons cette brève requête. Pourrais-je vous voir quelques moments ce soir pour un motif très important ? Henriette ajoutait qu'elle devait partir le lendemain pour Rome. Armée de ce petit document, elle s'approcha du portier qui venait de prendre sa faction à la porte et lui demanda si Mr. Goodwood était à l'hôtel. Le portier répondit, selon l'éternelle réponse des portiers, qu'il venait de sortir quelques 20 minutes plus tôt, sur quoi Henriette, présentant son billet, pria qu'on le remît à l'intéressé dès son retour. Elle reprit sa route et suivit le quai jusqu'au porche sévère des Uffizi, sous lequel elle s'engagea pour atteindre l'entrée du fameux musée de peinture. Elle gravit le haut escalier qui mène aux salles supérieures. Le long couloir, vitré d'un côté et décoré de bustes antiques, qui donne accès à ces salles, offrait une vide perspective où la brillante lumière hivernale luisait sur le sol de marbre. Le musée est très froid et n'attire que peu de visiteurs au cœur de l'hiver. Miss Stackpole pourra paraître plus ardente dans sa recherche de beauté artistique que nous ne le supposions, car elle avait, après tout, ses préférences et ses admirations. L'une d'entre elles était le petit corège de la tribune, la Vierge à genoux devant le Saint-Enfant couché dans une litière de paille et qui bat des mains pour le faire rire et gazouiller de joie. Henriette portait une tendresse particulière à cette scène d'intimité et y voyait le plus beau tableau du monde. Sur la route de New York à Rome, elle ne consacrait que 3 jours à Florence et se souvenait qu'elle ne devait pas manquer de faire une nouvelle visite à son œuvre d'art favorite. Elle avait, de la beauté sous toutes ses formes, un sentiment très vif qui impliquait nombre d'obligations intellectuelles. Elle allait pénétrer dans la tribune quand un visiteur en sortit. À sa vue, elle poussa un petit cri et se trouva devant Gaspard Goodwood. « Je viens de votre hôtel, expliqua-t-elle. J'y ai laissé un mot à votre adresse. » « Vous me faites beaucoup d'honneur, répondit Gaspard Goodwood avec une apparence de sincérité. Ce n'est pas pour cela que je l'ai fait. Je suis allé vous voir et je sais que cela ne vous plaît pas. C'était pour vous parler de quelque chose. » Il regarda un moment la boucle du chapeau de Miss Stackpole. « Je serai heureux de savoir ce que vous avez à me dire. »« Vous n'aimez pas causer avec moi, dit Henriette. Cela m'est égal. Ce n'est pas pour vous amuser que je parle. Je vous avais prié par un mot de venir me voir. Puisque nous nous sommes rencontrés, tout est pour le mieux. » »« Je m'en allais, déclara Goodwood, mais je vais rester avec vous. » Il montrait une politesse formelle et sans chaleur. D'ailleurs, Henriette n'exigeait pas de grandes explosions d'enthousiasme, et elle prenait si bien à cœur son sujet qu'elle fut reconnaissante au jeune homme de bien vouloir l'écouter. Elle ne lui demanda pas moins, pour entrer en matière, s'il connaissait tous les tableaux. « Tous ceux que je désirais voir, je suis ici depuis 1 heure. »« Je me demande si vous avez vu mon corège, » insista la jeune fille. « Je suis venue lui donner un coup d'œil. » Elle entra dans la tribune où il la suivit lentement. « J'ai dû le voir sans me douter qu'il fût à vous. Je n'ai pas de mémoire pour la peinture, surtout pour ce genre de toile. » Elle venait de lui désigner son œuvre favorite et il lui demanda si c'était du corège qu'elle avait à lui parler. « Non, répondit Henriette, c'est de quelque chose de moins harmonieux. » En dehors d'un gardien qui flânait près de la Vénus de Médicis, il se trouvait seul dans la petite salle brillante, conservatoire splendide de trésors. « J'ai une faveur à vous demander, » poursuivit Miss Stackpole. Gaspard Goodwood fronça légèrement les sourcils, sans paraître d'ailleurs gêné de son manque évident d'enthousiasme. Son visage avait beaucoup vieilli depuis que nous l'avons rencontré. « Je suis certain que cela ne va pas me plaire, » fit-il sur un ton assez appuyé. « Je ne le crois pas, en effet. Si je croyais vous faire plaisir, je ne vous demanderais pas une faveur. »« Eh bien, je vous écoute, » reprit-il, avec l'accent d'un homme résigné à la patience. « Vous pourriez penser que vous n'avez pas de raison particulière de m'être agréable. Moi, je n'en vois qu'une, c'est que si vous me fournissiez l'occasion de vous rendre service, j'aurais plaisir à le faire. » Le ton d'Henriette ne comportait, dans sa douce netteté, aucune tentative d'effet et donnait une impression d'extrême sincérité, dont son interlocuteur, malgré sa rudesse d'écorce, ne put s'empêcher d'être touché. Mais il n'était pas homme à donner de son émotion les manifestations habituelles. Il ne rougissait, ni ne détournait les yeux, ni ne prenait une mine gênée. Il se contentait de fixer plus nettement son attention, et paraissait réfléchir avec une vigueur accrue. Henriette continua donc, en tout désintéressement, et sans se douter de l'avantage qu'elle venait de remporter. « Je puis bien vous dire maintenant, car l'occasion paraît bonne, que si je vous ai jamais ennuyé, et je crains que cela ne me soit arrivé, c'était avec le sentiment que j'aurais volontiers consenti à l'être aussi pour vous. Je vous ai peiné indiscutablement, mais je prendrai de la peine pour vous. » Goodwood hésita. « Vous en prenez déjà en ce moment ?»« Oui, un peu. Je veux vous prier de considérer si mieux vaut en définitive que vous alliez à Rome. » « Je pensais bien que vous alliez me dire cela, » répondit-il avec une certaine ingénuité. « Alors, vous y avez déjà réfléchi ?»« Avec beaucoup de soin, c'est évident. J'ai considéré la question sous toutes ses faces. Sans cela, je ne serais pas ici. C'est ce qui m'a fait passer 2 mois à Paris. Je réfléchissais sans cesse. J'ai peur que vous vous soyez laissé guider par votre désir. Vous avez décidé du meilleur parti à prendre parce que vous vous y sentiez très attiré. « Le meilleur parti pour qui ?» demanda Goodwood. « Pour vous-même, d'abord, pour Mrs. Osmond, ensuite. Oh, elle n'en tirera aucun avantage, je ne me leurre pas sur ce point. Et n'en souffrira-t-elle pas? Toute la question est là. Je ne vois pas en quoi la chose la concerne. Je ne suis rien pour Mrs. Osmond. Pourtant, si vous voulez que je vous l'avoue, je suis décidée à la voir. Oui, et c'est pour cela que vous allez là-bas. Évidemment, pourrais-je avoir une meilleure raison. En quoi cela avancera-t-il vos affaires? Voilà ce que je voudrais savoir, s'enquit Miss Stackpole. C'est justement ce que je ne puis vous dire, et ce que je me demandais à Paris. Vous n'en serez que plus malheureux. Pourquoi plus ? Répéta Goodwood avec une certaine âpreté. Comment savez-vous que je suis malheureux ? C'est, fit Henriette après une légère hésitation, parce que vous paraissez ne vous être jamais soucié d'aucune autre femme. Comment connaîtriez-vous l'objet de mes soucis ? S'écria-t-il avec une rougeur subite. Pour l'instant, je ne m'occupe que d'aller à Rome. Henriette le regarda en silence, avec une expression attristée mais lumineuse. « Vous savez, » dit-elle enfin, « je voulais seulement vous dire ce que je pensais et ce que j'avais sur le cœur. Évidemment, vous trouvez que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, bien qu'à ce compte-là, rien ne regarde personne. » « C'est très aimable à vous, et je vous sais un gré infini de votre intérêt, » dit Caspar Goodwood. « J'irai à Rome, et je ne ferai pas de mal à Mrs. Osmond. »« Pas de mal, peut-être. Seulement, l'aiderez-vous. » Voilà toute la question. A-t-elle donc besoin d'aide ? Demanda-t-il lentement, avec un regard pénétrant. C'est le cas de la plupart des femmes, fit Henriette d'un ton évasif, et avec une généralisation moins encourageante qu'à l'ordinaire. Si vous allez à Rome, conclut-elle, j'espère que vous vous montrerez amie fidèle et non égoïste. Sur quoi, elle tourna le dos et se mit à regarder les tableaux. Caspar Goodwood, sans la retenir, la regarda un moment et erra la salle, mais il ne tarda pas à la rejoindre. « Vous avez appris quelque chose sur son compte ? » reprit-il. « Je voudrais savoir ce qu'on vous a dit. » Henriette ne biaisait jamais, et bien que les circonstances eussent pu rendre certaines ambiguïtés opportunes, elle décida, après une brève réflexion, de ne pas faire d'exception à sa ligne de conduite habituelle. « Oui, j'ai appris certaines choses, » répondit-elle, « mais comme je ne souhaite pas que vous alliez à Rome, je ne vous les dirai pas. »« À votre aise, je m'en rendrai compte par moi-même, » déclara-t-il. Puis, avec un certain manque de suite dans les idées. « On vous a dit qu'elle était malheureuse, » ajouta-t-il. « Oh, elle ne vous le laissera pas voir, » s'écria Henriette. « Je l'espère. Quand partez-vous ? » « Demain, par le train du matin. Et vous ?» Goodwood ne répondit pas. Il n'avait pas le moindre désir de faire le voyage de Rome en compagnie de Miss Stackpole. Son indifférence à pareille faveur n'était pas de la même nature que celle de Gilbert Osmond, mais avait pour le moment la même netteté. Elle représentait plutôt un tribut aux vertus de Miss Stackpole qu'une allusion à ses défauts. Il la trouvait très remarquable, très brillante, et ne faisait en théorie aucune objection à la classe dont elle faisait partie. Les correspondantes de journaux lui paraissaient avoir leur place marquée dans le mécanisme naturel d'un pays de progrès, et sans jamais lire leurs articles, il supposait qu'elles contribuaient de façon quelconque à la prospérité générale. C'était cette éminence même de leur situation qui lui faisait souhaiter que Miss Stackpole ne s'arrogeât pas trop de droits. Elle tenait pour évident qu'il fut toujours prêt à parler de Mrs. Osmond. Elle n'y avait pas manqué lors de leur rencontre à Paris, 6 semaines après l'arrivée du jeune homme en Europe, et avait, en chaque circonstance, tablé sur cette hypothèse. Or, il n'éprouvait pas le moindre désir de parler de Mrs. Osmond, sûr qu'il était de ne pas toujours penser à elle. Il était le plus réservé, le moins communicatif des hommes, et cette enquêteuse intrépide dardait constamment les feux de sa lanterne sur l'ombre paisible de son âme. Il eût souhaité qu'elle ne prît pas les choses tant à cœur, voire, malgré l'apparente brutalité d'un tel désir, qu'elle le laissât en paix. Malgré quoi, cependant, il faisait à ce moment précis d'autres réflexions, qui montrent à quel point son mauvais vouloir différait de celui d'Osmonde. Il désirait partir sur le champ pour Rome. Il eût voulu s'y rendre seul, par le train de nuit. Il détestait les compartiments de chemin de fer d'Europe, où l'on restait comprimé pendant des heures, coude à coude et nez à nez avec un étranger dont le voisinage se faisait plus intolérable encore par le désir que l'on éprouvait d'ouvrir la portière. Si les conditions de malaise s'exagéraient encore la nuit, on pouvait au moins dormir et rêver d'un wagon-salon d'Amérique. Mais il ne pouvait pas prendre un train de nuit quand Miss Stackpole devait prendre celui du matin. Un tel geste lui eût fait l'effet d'une insulte à une femme sans protection. Il ne voulait pas non plus attendre qu'elle fût partie, car cet atermoiement risquait d'excéder les limites de sa patience. Il lui était odieux de patienter jusqu'au lendemain. La journaliste l'agaçait, l'étouffait. L'idée de passer la journée en sa société dans un train européen conjuguait une série d'exaspérations. Et pourtant, c'était son devoir d'homme de se déranger pour elle. La chose était évidente et la nécessité inéluctable. Il eut pendant quelques instants une mine de gravité extrême avant de se résigner à dire, sans le moindre accent de galanterie, « Évidemment, si vous partez demain, je partirai avec vous pour pouvoir vous être utile. »« Je l'espère bien, Mr. Goodwood, » répondit imperturbablement Henriette.